Voilà, nous pouvons redémarrer cette fois, donc l'épître aux Colossiens, le sujet d'aujourd'hui.
On
se répète la géographie, c'est important.
Pour
comprendre où se déroulent les événements que nous lisons. On se rappelle que nous sommes ici à
Kananga.
Le Congo se trouve ici. L'Afrique ici.
Africa.
L'Arabie. L'Asie mineure qui aujourd'hui c'est la Turquie
de l'Ouest,
la Grèce, l'Italie.
Grèce, l'Italie.
L'apôtre Paul se trouve à Rome. La capitale de l'Empire romain. Une très grande ville, peut-être la plus grande du monde à l'époque. L'apôtre Paul est prisonnier. Il entend des nouvelles de Epaphras et de
Éphèse.
Il va leur écrire deux lettres. Il y a aussi un problème spécial avec Philémon. Nous sommes en l'an
60-61.
Par un frère fidèle, Tichy.
Il
va aller porter la lettre à
Éphèse.
Ces deux derniers jours, nous avons vu la lettre
d'Éphèse.
La lettre pour les
Éphésiens.
Et il va aussi porter la lettre à Colosse par le frère
Epaphras,
qui vient justement de cette région et qui lui a raconté des choses. Mais ce n'est pas Epaphras qui va apporter la lettre, c'est Tichy. Qui sera accompagné de Onésime, l'esclave qui avait
fui.
Maintenant, nous agrandissons ici. Nous voyons de nouveau Éphèse. C'est cette partie-là que nous agrandissons. À l'intérieur des terres, il y a Colosse. Il y a aussi deux autres villes où il y a des assemblées.
Laodicée
et Hierapolis. Lisons Colossiens 4,
verset
15 et 16. Merci. Alors là, on voit qu'il y a à la fin de l'épître aux Colossiens, il y a des salutations aussi pour l'assemblée à Laodicée.
Il était
aussi question de l'assemblée à Hierapolis. Et puis, il parle aussi des autres qui doivent lire cette lettre aux Colossiens. Et les Colossiens devront lire la lettre qui va arriver justement de là. Une autre lettre qui probablement est celle des
Éphésiens.
Donc déjà à l'époque, ces lettres étaient adressées d'abord à une assemblée. Mais ensuite, elles circulaient parce qu'il y avait des enseignements utiles pour tout le monde. Je mentionne encore la ville de Corinthe, en Grèce, qui est de l'autre côté de la mer
Égée.
Nous savons que l'apôtre Paul a écrit deux lettres aux Corinthiens. Il y avait une grande assemblée là-bas. Maintenant, Jérusalem est à l'est. Donc, vous pouvez vous représenter le trafic par mer ou par terre dans ces
régions.
Vous vous rappelez aussi, Michel avait commencé par nous parler dans les épîtres de Pitre Gala.
Oui, c'est Michel,
lors de son premier voyage, l'apôtre Paul avait été en Galatie depuis Antioche. La Galatie, c'est une région centre-sud de la Turquie
d'aujourd'hui.
Donc l'apôtre Paul voyageait, annonçait
l'évangile.
Il commençait par aller à la synagogue quand il y avait des
Juifs.
En général, une partie se convertissait à l'évangile.
Et cela
donnait les premières
assemblées.
Il y avait d'autres frères qui voyageaient. L'apôtre Paul était aussi informé. Alors il a écrit des lettres pour instruire et corriger.
Ces
lettres ont été considérées comme faisant partie de la parole de Dieu. Celles qui ont été retenues pour être dans le Nouveau Testament.
Et
les épîtres de l'apôtre Paul, mais aussi d'autres. Constitue l'essentiel de la doctrine pour l'Église aujourd'hui. Toute la Bible est importante, mais les différents livres s'adressent suivant les époques à des situations différentes. On a vu tout à l'heure comme le livre du prophète Esaïe s'adressait aux Juifs de l'époque. Mais qu'il y a des éléments qui vont jusque dans le futur qui n'est pas encore
arrivé.
Mais il y a aussi des éléments qui nous concernent pas spécialement
aujourd'hui.
Même si c'est toujours utile d'approfondir la parole de Dieu. Cependant, les épîtres du Nouveau Testament nous concernent directement, entièrement. On peut retrouver des situations d'assemblée locale que nous connaissons aujourd'hui. C'est certains aspects de déviation, on le trouve encore aujourd'hui.
Les
problèmes d'immoralité sont toujours les
mêmes.
Les problèmes de déviation doctrinale étaient déjà à l'époque.
C'est
cela que c'est une partie de la Bible qu'il faut vraiment beaucoup approfondir.
Maintenant,
pourquoi Paul a écrit l'Épître aux
Colossiens?
Nous allons voir dans l'étude qu'il y a des considérations générales qu'il y avait aussi aux Éphésiens. Mais les Colossiens avaient un problème spécifique. Les Galates, on avait vu, avaient tendance à revenir à la loi juive. Le problème des Colossiens est un peu différent. Il y avait bien des soucis de juifs qui voulaient imposer des rites. Mais il y avait aussi et principalement la philosophie grecque qui
influençait.
Et qui faisait défier certains croyants de
Colosse.
Il y avait notamment un mouvement à l'époque qui s'appelait la
Gnose,
qui avait un certain culte des anges, qui considérait aussi le Seigneur Jésus comme
peut-être
un homme supérieur. Et puis ce qui était spirituel, c'était opposé au matériel.
La Gnose
considérait tout ce qui était du corps comme secondaire et pas important. Selon cette tendance de la philosophie grecque de séparer ce qui est spirituel, sagesse, et puis ce qui est du corps, qui est
mauvais.
Mais en méprisant tout ce qui était du corps, les gnostiques avaient tendance aussi à l'immoralité. Et certains, en méprisant le corps, voulaient plutôt même le meurtrir, pour le négliger, pour faire de
l'ascétisme.
Ce sont peut-être des tendances philosophiques difficiles. Mais ces faux éléments se retrouvent d'une certaine façon encore
aujourd'hui.
Nous savons que dans le bouddhisme et l'hindouisme, il y a la tendance aussi à cet ascétisme, à ce reniement du corps. Ces versets sont très valables et actuels
aujourd'hui.
Nous allons nous attacher à rentrer dans le texte. Alors les premiers versets commencent par les salutations. Et puis nous allons commencer par lire les versets 3 à 5.
Et tout à déjà pour bala.
Thank you. Alors, il y avait des problèmes assez graves à l'Assemblée de Colosse. Mais l'apôtre Paul commence par souligner ce qui est bien. Aussi, si nous avons affaire à des problèmes, c'est bien de considérer déjà ce que les personnes font bien. Et dans ces versets, il remercie Dieu déjà. Parce qu'il avait entendu de cette assemblée de
Colosses.
Il ne les avait jamais vus directement face à face. Mais Epaphras, qui avait évangélisé cette région, après probablement avoir entendu l'apôtre Paul et l'évangile à Éphèse, était venu parler de ses problèmes à l'apôtre Paul jusqu'à Rome. Alors, qu'est-ce qui était positif? Nous voyons au verset
4.
Il a entendu parler de leur foi dans le Christ Jésus. Deuxièmement, il a entendu parler de l'amour qu'ils avaient pour tous les saints.
Ça,
c'est le numéro
8.
Numéro Isatu.
Au verset 5,
il s'agit de l'espérance. Donc, il savait qu'il y avait l'espérance d'être un jour au ciel avec le Seigneur Jésus. C'est déjà trois choses très positives. D'avoir une foi vivante dans le Seigneur Jésus. D'avoir un amour vrai les uns pour les autres. Et d'avoir cette espérance de tendre le Seigneur Jésus. Maintenant, l'apôtre Paul parle de ce serviteur Epaphras. Nous lisons les versets
7
et 8. Ici, nous voyons donc ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Epaphras, qui est comme un compagnon dans le service de l'évangélisation, avait évangélisé la ville de Colosse et la région. Parce que lui-même venait de Colosse. Et avait à cœur de transmettre la bonne nouvelle qu'il a reçue. Un petit peu comme hier que nous avons parlé de l'évangélisation.
Nous.
Avec l'idée de raconter ce que nous avons reçu. Et de transmettre la foi plus loin à d'autres. Maintenant, nous revenons un tout petit peu en arrière et nous lisons le verset
6.
Là, nous voyons que la vérité de l'évangile est comparée à un arbre qui porte du fruit et qui croit, qui grandit. Si nous lisons au chapitre 2 au verset
7,
nous n'allons pas spécialement le lire, mais nous voyons qu'il y a cette idée d'être enraciné en le Seigneur Jésus.
Donc
on retrouve cette image de l'arbre. Donc au verset 6, il est dit, vous avez, à la fin, vous avez connu la grâce de Dieu. C'est quelque chose qui est sûr. C'est la base. C'est comme nos racines. Comme les racines de l'arbre qui nous rend solides. Maintenant, nous lisons le verset
9.
Là, nous voyons que l'apôtre Paul n'arrête pas de prier. Bel exemple aussi pour nous. Et il prie pour qu'il soit rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Pour bien marcher dans la vie, il faut connaître la volonté de Dieu. Et il dit en toute sagesse et intelligence spirituelle. Il savait qu'il y avait des frères et sœurs grecs influencés par la philosophie à
Colosse.
Les philosophes cherchent à connaître la connaissance
supérieure.
Alors l'apôtre Paul vient à parler leur langage. Oui, la connaissance, la sagesse, l'intelligence, c'est important. Mais ça doit être la connaissance de la volonté de Dieu. Alors il prie pour que ce soit une bonne connaissance qu'il réalise. Et comme ça, ils pourront se conduire bien. Et porter du fruit, comme on l'a vu au verset 6. Maintenant, nous lisons le verset 10. Alors là, nous voyons que lorsque nous connaissons bien la volonté de Dieu, nous pouvons porter du fruit. Dans notre marche. Et puis, il y a un troisième aspect.
À la fin du verset,
c'est de grandir par la connaissance de Dieu. Donc, nous voyons ce parallèle avec un arbre. Trois parallèles. En connaissant la volonté de Dieu, on va pouvoir porter du fruit. On connaît la volonté de Dieu parce que nous avons connu la grâce de Dieu avec certitude. Ça nous donne de solides racines. Et puis troisièmement, cet arbre, il va grandir. Ça va nous donner aussi les caractéristiques de l'épître. Il y aura une première partie surtout où l'apôtre Paul va préciser des aspects importants de la doctrine.
Tout
spécialement concernant la personne du Seigneur Jésus. Et après, il y aura une partie plus pratique qui va donner des instructions quant à notre marche de tous les jours. Maintenant, depuis le verset
12,
comme je viens de le dire, nous allons nous concentrer sur la personne du Seigneur
Jésus.
Pour comprendre vraiment qui il est. Nous avions dit que les Colossiens étaient influencés par de la philosophie. Par un mouvement qui s'appelait la
gnose.
Qui s'intéressait aux anges, aux autorités spirituelles. Et le Seigneur Jésus était un peu mélangé là au milieu. Il n'avait pas une connaissance approfondie de sa personne. Nous savons qu'il y a encore jusqu'à aujourd'hui des déviations importantes concernant la personne du Seigneur
Jésus.
Il y a notamment un mouvement important sur toute la terre qui se réclame du christianisme, mais qui a des fausses doctrines graves sur la personne du Seigneur. Ce sont les témoins de Jéhovah dont vous avez
entendu.
Ils pensent que le Seigneur Jésus était une fois un ange supérieur qui est devenu homme. Mais par son sacrifice, il est devenu fils de Dieu. Mais selon eux, il ne l'était pas de toute éternité. Alors c'est aussi une déviation qui va dans le sens de ce que nous voyons à
Colosse.
Maintenant, nous lisons les versets 12 à
14.
Là, nous voyons que nous pouvons remercier Dieu parce que nous participons aux croyants qui sont dans la lumière. Il rappelle au verset 13 que Dieu nous a délivrés du pouvoir des ténèbres.
Et
nous a transporté dans le royaume du Seigneur Jésus.
Nous ne
le vivons pas concrètement physiquement,
c'est futur. Mais
c'est déjà notre part en
Christ.
Comme nous l'avons vu aussi dans l'Épître aux Éphésiens. Le Seigneur Jésus, c'est en lui que nous avons la rédemption, le rachat. La rémission des péchés. On n'a plus besoin de payer pour ces péchés, ils nous sont remis. Et maintenant, nous allons toujours plus nous focaliser sur la personne du Seigneur
Jésus.
C'est aussi un aspect important que nous voyons en rapport avec l'adoration. Lorsque nous faisons notre adoration personnelle ou collective dans le culte, nous racontons au départ plutôt comme nous avons été délivrés de la mort et de la du pouvoir des ténèbres. Nous racontons, nous louons le Seigneur Jésus, Dieu, pour ce qui a été fait, pour les œuvres de rachat. Et progressivement, nous nous détachons de nous-mêmes. Même si la louange à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous est aussi importante. Mais plus nous allons dans l'adoration, il semble que le mot d'origine de adorer et l'idée de se faire tout petit, de s'agenouiller devant Dieu, donc plus nous passons d'une louange générale vers une adoration, eh bien, l'attention va moins se porter sur nous-mêmes, on va s'effacer devant Dieu. Pour nous concentrer non seulement sur ce que le Seigneur a fait, mais sur ce qu'il est.
Et
c'est ce que fait l'apôtre Paul dans ses versets. Donc, on voit premièrement que nous étions délivrés du pouvoir des ténèbres, que le Seigneur Jésus a fait pour nous ce rachat de la rédemption et nous a remis nos péchés,
et
à partir du verset 15, on se détache de nous pour nous concentrer sur ce qu'il
est.
Lisons les versets
15 et 16. Donc là, nous voyons que le Seigneur Jésus lui-même est l'image de Dieu que l'on ne voit pas. Lorsqu'il est sur la terre, nous avons quatre évangiles qui nous racontent la personne.
On a même
parlé que Isaïe était le cinquième évangile parce qu'il y a beaucoup de passages qui nous parlent de lui
aussi. Et
puis on voit que lui-même est le créateur. Les choses que nous voyons, mais aussi les choses invisibles, les choses qui sont dans le ciel. C'est lui qui a tout créé. Et on va dire, peut-être certains vont dire, oui, c'est lui qui a créé les choses pour Dieu.
Et
c'est vrai qu'il a été l'artisan de la création pour Dieu. Mais à la fin du verset 16, nous avons lu que les choses non seulement ont été créées par lui,
mais
pour lui. Donc lui aussi est Dieu. Parfaitement Dieu. Alors maintenant, il y a une expression qu'il faut un peu expliquer. Au verset 15, nous avons lu le premier-né de toute la création. Alors, si on lit un petit peu rapidement, on va dire Dieu a créé le monde, il a commencé par créer le Seigneur
Jésus.
Mais quand on lit le verset suivant, il y a une contradiction. Puisque c'est le Seigneur Jésus qui a tout créé. Donc, il faut nous attacher à ce terme premier-né. Parce qu'il peut avoir des sens divers. Alors, je ne sais pas comment c'est traduit en chiluba.
Mais
en français, il y a deux sens de
premier.
Ça peut être celui qui est né le premier dans les enfants d'une famille. Mais ça peut être aussi celui qui va être supérieur aux autres dans l'héritage. Qui sera une sorte d'héritier devant les autres. Alors ici, nous n'avons pas l'idée de naissance, mais l'idée de supériorité. L'idée de cet héritier universel des choses de Dieu. Et comme ça, nous pouvons concilier cette signification avec le verset
16.
Avec celui qui a fait toutes choses. Donc il a cette appellation de premier-né comme héritier, comme aîné, c'est lui qui passe avant toute
chose.
Maintenant, nous lisons le verset
17.
Donc là, nous voyons que non seulement lui, il était déjà là quand tout a été créé. Mais c'est aussi lui qui fait en sorte que les choses subsistent. Que la terre continue de tourner autour du soleil. Que le soleil continue de briller. Que dans le cosmos, les différents astres circulent sans qu'il y ait sans arrêt des
collisions.
Et que la vie sur Terre continue d'être possible. Donc les choses subsistent aussi par le Seigneur Jésus. Donc là, On se concentre sur lui et maintenant nous lisons le verset
18.
Là, nous avons de nouveau cette appellation que nous avons beaucoup retrouvée dans l'Épître aux
Éphésiens.
L'image du corps pour l'assemblée.
Et
du chef qui est le Seigneur Jésus. C'est quelque chose de nouveau et de très important. Il n'y avait pas cette relation entre Dieu et les Juifs. Même si on voit dans les prophéties que Dieu, le Père, considère aussi le peuple d'Israël en quelque sorte comme une épouse parfois. Les prophètes font dans plusieurs parties des prophéties comprendre au peuple qu'ils étaient comme une épouse infidèle. Quand il se donnait à l'adoration des idoles. Mais avec l'Église, il y a quelque chose de nouveau. Cela forme un tout avec le Seigneur Jésus. Lui étant la tête ou le chef du corps. Et là nous voyons à la fin du verset 18 le but. Afin qu'en toutes choses il tienne lui la première place. Nous savons que nous avons tous de la peine à lui donner la première place. Soit qu'il y a des personnes ou des choses qui ont tendance à prendre plus de place que lui dans nos vies, dans nos affections.
Soit
que peut-être les soucis de la vie, du travail ou autre prennent trop de place. Mais le but, c'est que pour chacun de nous, dans l'Église, il tienne la première place. Donc, on voit cette progression de nouveau dans l'adoration. On se souvient d'où on est tiré des ténèbres, de la perdition. On le loue pour son œuvre qui nous a rachetés, qui nous a sortis de ces ténèbres pour nous amener à la lumière. Et petit à petit, on détourne nos yeux de nous-mêmes pour vraiment le regarder extraordinaire dans sa personne. Naturellement, dans un culte d'adoration, il y a les trois éléments qui peuvent se mélanger aussi. Mais c'est beau lorsque lui, il prend toute la place. Et que nous faisons tout petit devant lui. C'est notre Créateur. Et en plus, c'est notre Sauveur qui est devenu notre Seigneur. Et nous sommes liés à lui comme dans un corps. Lui qui est la tête et le chef. Nous lisons maintenant les versets 19 et 20. Nous avons vu dans les Éphésiens l'importance de la réconciliation. Là, on va un peu moins le détailler que dans l'épître aux
Éphésiens.
Mais il est précisé qu'il y a aussi une réconciliation qui est nécessaire de manière générale. Pas seulement la créature perdue avec son sauveur, mais ici il est dit toutes choses. Que le sang qui a coulé à la croix a provoqué une réconciliation aussi générale.
C'est
un aspect terrestre. Mais à la fin du verset 20, un aspect céleste. Cette réconciliation a aussi un effet dans les cieux. Même si c'est plus difficile à réaliser ce que cela signifie. Nous avons vu que le Seigneur Jésus, au verset 18, est appelé aussi le premier-né d'entre les morts. De nouveau, nous rappelons qu'il y a deux sens au mot premier-né.
Le sens
d'être né avant, donc
chronologique. Et
le sens d'être supérieur, d'avoir une prééminence.
Et
de nouveau, si nous prenons l'idée d'antériorité, c'est-à-dire chronologique, de nouveau, il y a une difficulté. Parce que si nous prenons cette idée-là, eh bien, le Seigneur Jésus n'est pas le premier qui a été ressuscité. Par exemple, lorsque nous avons vu les prophètes Élie et
Élisée.
Nous avons vu qu'il y a eu des enfants qui ont été ressuscités.
Ils
sont morts naturellement plus tard. Lorsque on a mis un mort près de la tombe d'Élisée, de ses
os. Dieu a
permis un miracle que cette personne revienne à la
vie.
Donc il y a eu déjà des personnes
ressuscitées.
Mais là on comprend que le Seigneur Jésus, il a cette position de prééminence, c'est-à-dire d'être supérieur en-dessus des autres. C'est l'aîné, c'est l'héritier universel. Et naturellement, ça se marque aussi parce que lorsqu'il est ressuscité, c'est définitif. Alors que nous savons que les personnes qui ont été aussi ressuscitées dans les évangiles ou les actes, comme Lazare, le frère de Marthe et Marie.
Eh
bien, quelques années plus tard, il est décédé de mort naturelle. On ne sait pas comment, mais il est décédé. Alors que le Seigneur Jésus est ressuscité d'entre les morts avec un nouveau corps.
Et
un jour, ce sera notre part aussi. Nous continuons dans le texte. Nous avons vu le verset 20, nous lisons les versets
21 et 22.
Je vais vous
Nous avons vu donc qu'il y avait au verset 20 une réconciliation universelle, générale.
Mais au verset 21 et 22,
c'est une réconciliation personnelle.
Et puis
autrefois, nous étions tous des étrangers au salut du peuple de Dieu. Nous étions même ennemis quant à notre entendement, quant à notre compréhension des choses du monde.
Et
le fait que les nations idolâtres ne comprenaient pas la volonté de Dieu. Et qu'elle faisait des mauvaises œuvres en opposition à Dieu. Mais par la mort de Christ, qu'il a eu dans la souffrance de sa chair, il a tout payé pour nous présenter au verset 22, saint et irréprochable et irrépréhensible devant lui. Donc séparé complètement du mal, sans reproche,
et
sans qu'on puisse les reprendre pour une faute. Ça c'est ce que nous avons déjà maintenant comme position dans notre nouvelle vie en Christ. La nouvelle nature ne peut pas pécher. Nous savons que dans notre marche, nous avons encore des fautes, des chutes. Mais en vertu de l'œuvre de Christ, nous pouvons nous tenir devant Dieu. Parce que l'œuvre du Seigneur Jésus est complète. Alors maintenant, il y a un verset 23 qui est un peu difficile que nous pouvons lire. Alors, dans le monde chrétien, probablement la majorité pense qu'on peut perdre le salut. Notamment le monde charismatique fait peur aux gens. Si tu fais des fautes, tu peux perdre ton salut. Il y en a aussi qui disent, si l'on est en train de pécher au moment du retour du Seigneur, on n'est pas pris. On va rester avec les incrédules. Alors, effectivement, il est possible qu'au moment où le Seigneur revient, on est en train de faire une mauvaise action. Mais si c'était vraiment comme ça que Dieu nous enseignait, nous serions toujours dans l'angoisse. Oulala, peut-être que s'il revient maintenant, je ne vais pas monter au ciel. Et cela est en contradiction avec l'enseignement biblique qui nous donne une certitude. Et en plus, si c'était comme ça, le fait de monter au ciel avec le Seigneur dépendrait de nos bonnes ou mauvaises œuvres. Alors que le salut, nous savons bien, ne dépend pas de nos
œuvres.
Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens pensent que c'est comme ça et ils vivent dans la crainte.
Il
y a bien des responsables d'église qui disent mais il faut maintenir les fidèles dans la crainte pour sinon ils font trop de péchés.
Mais
ce sont des considérations humaines. Nous devons obéir à ce que dit la parole
de Dieu. Et
alors ceux qui pensent ça, ils prennent entre autres ce verset. Vous serez présentés devant Dieu si vous demeurez dans la foi. Alors il pense, ça veut dire on peut perdre la foi. On peut se laisser détourner de
l'évangile.
Mais ce n'est pas une bonne compréhension de ce
verset.
Parce que si on le comprend comme ça, on est en contradiction avec beaucoup d'autres
versets.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'apôtre Paul encourage les Colossiens qui auraient peut-être une foi superficielle, qui auraient suivi le mouvement, mais que cette foi n'était pas fondée et ferme.
Le
Seigneur Jésus, dans la parabole du semeur, il donne quatre exemples où est tombée les graines, la semence. Et il y a un seul qui grandit vraiment. Mais il dit les autres, soit c'est les démons ou Satan qui
enlèvent.
La parole qui pourtant avait été semée au début. Une petite pause pour la caméra. Alors, nous disions donc la parabole du semeur, il y a des fois la parole qui est semée, qui est enlevée par le diable ou les démons.
Mais
il y a aussi la parole tombée sur le roc et puis il n'y a pas de racine
profonde. Les
tentations de la vie empêchent que cela tienne.
Il y a
aussi les épines qui étouffent avec les soucis de la vie ou les plaisirs de la
vie. Et
dans le même sens, l'apôtre Paul avertit, il faut vraiment qu'il y ait de bonnes racines à votre foi. Il y a certains, on pense qu'ils appartiennent au Seigneur, mais après on les voit qui s'éloignent, ils n'avaient pas vraiment de racines. Maintenant, nous passons au passage depuis le verset
24.
Nous lisons déjà les versets 24 à 26. Apôtre Paul était dans les souffrances, il était en prison à Rome.
L'apôtre Paul était dans les souffrances, il était en prison à Rome.
Mais il peut quand même se réjouir. Alors c'est pas une, il se réjouit pas de manière masochiste en souffre, pour se, avoir le plaisir dans les souffrances elles-mêmes. Mais parce que même s'il a eu des souffrances, eh bien la parole de Dieu a avancé. Il répète qu'il a souffert pour le corps qui est l'assemblée. D'une certaine façon, comme le Christ lui-même a souffert aussi,
eh
bien les croyants doivent aussi souffrir. Mais au verset 26, c'est ce mystère caché. Pendant des siècles, on ne connaissait pas cela. Et maintenant, c'est révélé, et l'apôtre Paul est le principal artisan de cette révélation. Et puis, nous lisons maintenant le verset 27. Donc nous avons ce mystère extraordinaire que Christ est en nous. Nous avons dit que dans les Éphésiens, c'était plutôt nous qui avions cette position au ciel. Et les Colossiens mettent plutôt l'accent sur le fait que Christ est présent en nous. Cet épître nous montre que c'est cette espérance aussi de la gloire un jour avec Christ. Et ce qui est le but de l'apôtre Paul, on voit au verset 28 que nous ne lisons pas maintenant. C'est que ces enseignements correspondent à la sagesse. Cette sagesse que recherchaient les philosophes. Mais celle selon Dieu. Pour présenter tout homme parfait en Christ. Et au verset 29, on voit que c'est le travail de l'apôtre
Paul.
Il combat selon le service qu'il a reçu.
Et
c'est cela qui est aussi notre part. Au chapitre 2, au début du chapitre, on voit qu'il est dans le combat. Pour eux, les Colossiens. Et aussi pour ceux qui sont dans l'assemblée voisine à
Laodicée.
Ils aimeraient qu'ils soient consolés par l'amour de Dieu. La connaissance de ces mystères qui viennent de Dieu. Nous lisons le verset 3. Maintenant, l'apôtre Paul va se concentrer sur les déviations de Colosse.
Et
il va leur dire qu'il y a des dangers chez vous.
Ils cherchaient
une connaissance philosophique supérieure.
Mais il
va leur dire que c'est en Dieu que sont cachés tous ces trésors de la
sagesse.
Attention de ne pas vous dévier vers d'autres choses qui sont fausses.
Lisons les versets
4
et 5.
Là, nous voyons qu'il dit, ben, je suis loin, nous avons vu, il est à Rome,
hein, c'est loin de l'Odyssée.
Mais il pense, il prie pour eux. Donc c'est comme si je suis présent avec vous. Alors attention de ne pas vous laisser séduire. Par des gens qui font des discours spécieux. Qui ont l'air d'être la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Et il répète qu'il se réjouit pour les côtés positifs des
Colossiens.
Il dit qu'il se réjouit en voyant leur ordre, leur fermeté et leur foi.
Il avait
déjà parlé de la foi. Maintenant, il les félicite aussi pour l'ordre qu'ils ont. Et en passant, c'est intéressant de voir qu'une assemblée locale doit fonctionner avec ordre. Les réunions ne doivent pas être chaotiques. Que ce soit la louange, la prière, l'adoration, les enseignements, ça ne doit pas être un chaos.
Mais
les choses doivent se dérouler en ordre.
Et
c'était un aspect positif de l'Assemblée du Colosse. Maintenant nous terminons en lisant les versets 6 et 7.
Et tout ce que je vais vous dire, c'est que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit
Donc là, il les encourage à marcher en Christ. On retrouve ce qu'on disait avant, ce verset que nous avions vu avec des racines.
Qui
nous donne une solidité s'il y a des tempêtes. Et on est édifié en lui, c'est-à-dire comme une construction en lui. Selon ce qu'on a reçu comme enseignement biblique et de l'apôtre Paul pour les Colossiens indirectement. Et il est dit aussi, il ne faut pas oublier les actions de grâce. C'est-à-dire la reconnaissance envers Dieu. Il est même dit abondant en elle, donc en bonne quantité, en grande quantité.
Et
on a souvent
cette tendance comme croyant en général, on demande à Dieu, on prie pour ce qui ne va pas, ce qui est une bonne chose, mais on oublie de le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous. Voilà, on va s'arrêter là pour cette première partie.
Thank you.